Le week-end des 20 et 21 avril, l'équipe de Planisphère a assisté à la première édition du festival InnaSound au Palais Brongniart, l'ancien palais de la Bourse. Dédié aux cultures électroniques, ce festival produit par l'Institut National de l'Audiovisuel met à l'honneur l'électro sous toutes ses formes. L'INA, connue pour son travail d'archivage de films, d'émissions de télé et de musique, contribue aussi au développement des musiques électroniques. Parrainée par Jean-Michel Jarre, l'InnaSound débute avec une table ronde retraçant une histoire des musiques électroniques. Parmi les témoins, Maud Jeffrey, productrice, DJ et moitié de Scratch Massive. Après la table ronde, elle nous parle de sa musique et de sa collaboration avec l'InnaSound.
Je trouve ça assez intéressant de mêler quelque chose d'assez institutionnel qui va amener des choses en électronique, de parler de la recherche, l'INA, le GRM, tout ce que ça peut impliquer, de prendre ce lieu en plein centre de Paris. Enfin, il y a vraiment une implication dans le lieu qui est chouette. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des surprises un petit peu partout, des salles, des expérimentations. C'est au-delà d'une programmation classique avec que du son. Il y a vraiment un truc d'acteurs aussi, des gens qui peuvent aller naviguer, choisir les endroits où ils vont passer plus de temps ou pas. Enfin, c'est pas mal, c'est intéressant. Dans les années 2002, quelque chose comme ça, parallèlement à mes études, à ce moment-là, je faisais du son. Je commençais un peu à essayer avec des platines chez des potes de mixer. Je travaillais un peu avec un pote qui avait un sampleur. Après, on a commencé à faire des morceaux avec Sébastien Chenu, donc de Scratch Massive. Et c'était le début, le tâtonnement. J'apprenais à ce moment-là à me servir et des platines et du son et à plonger un peu plus dedans. L'inspiration, c'est toujours assez difficile à définir. C'est un univers concret qu'on creuse jusqu'à ce que ça donne quelque chose de réel. Voilà, je sais pas comment les autres font, je sais rien, mais c'est toujours difficile à décrire. Mais créer un album, c'est créer tout un univers et puis tout soit cohérent. Et voilà. Là, j'ai l'impression, quand j'ai démarré, j'ai vraiment la première fois que j'ai mixé devant des gens et tout, c'était au Pulp. Donc, un petit peu comme une sorte de famille qui se crée. Et puis, au fil du temps, ça pose des tas de questions sur la place des femmes dans la musique électronique, dans la société globalement. Pour moi, ça a toujours été important aussi d'être impliquée dans ces mouvement de femmes, de lesbiennes et pas que, de femmes aussi, et de donner le maximum de place à nous autres, donc qu'on fasse de la musique, qu'on fasse d'autres choses, ou à ces organisations-là en tout cas, et qui sont importantes pour la suite aussi, pour les générations futures, je pense. Avec Scratch Massive, là, on est en tour, donc on tourne le live de l'album. Et puis, j'ai une sortie prévue chez Pan-European pour la rentrée, qui sera un travail que j'ai fait autour de Philippe Glass avec une harpiste que j'avais fait en version plus courte il y a un an, un peu plus. Et puis là, on l'a retravaillé, rallongé, donc on va sortir ça en octobre chez Pan-European.
Fidèle à son nom, l'INA consacre plusieurs espaces du Palais Brongniart aux arts audiovisuels et numériques. Dans le petit auditorium, s'alternent documentaires sur l'électro et formats courts de musique. L'artiste Olivier Ratzi présente son installation Continuum dans la salle des engrenages. Et la Corbeille, un espace ouvert au premier étage, est investi par le collectif Oye avec des lives audiovisuels.
Moi, c'est Dylan Cote, donc membre de Oye.
Bonjour, moi c'est Pierre, aka Incogito. Je travaille beaucoup avec Dylan sur l'installation Vidjing.
Moi, c'est Talula. Je suis déjà passée à Planisphère une fois pendant une émission sur Oye. Donc, je fais de Vidjing, des performances, un peu de spectacle, mais maintenant, je me tourne aussi vers la recherche. Je pense que quand même si le Vidjing, ça existe comme pratique depuis longtemps, il y a quand même toujours un problème de reconnaissance en soi. Et que je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de membres d'Oye, voire tous les membres d'Oye, qui pratiquent aussi beaucoup d'autres choses à côté, notamment vraiment la construction de visuels pour un artiste, qui est quand même très différent du vidging. En fait, je pense que le vidging, c'est une pratique qui est importante et qu'il faut valoriser. Mais aussi, nous, en tant qu'artistes visuels, on a besoin d'avoir une richesse et une pluridisciplinarité pour se sentir un peu satisfait.
Ce qui est assez bien avec Innocent et que je trouve qui marche bien, c'est justement de pouvoir se balader dans différentes scènes et qu'il ne soit pas uniquement des scènes où, par exemple, il y a du vidging et du djing, où tu as une salle, bah là, la Cousmonium, où tu te poses sur des transats et tu as une spatialisation de l'image et du son. Donc moi, c'est plus ce genre de format qui m'intéresse et vers lesquels j'aimerais aller. C'est-à-dire que tu ne vois pas le festival comme un endroit avec des scènes de musique où tu as un show forcément très calé, mais tu vas te balader dans des espaces qui sont peut-être parfois réapproprié par des gens et où tu as trouvé peut-être une installation artistique dans un angle. Ouais, plus partir sur de la déambulation plutôt que sur vraiment une structure classique de scène et de gros line-up.
Je pense que ce qui est bien dans ces expériences-là, c'est que ça plonge vraiment les visiteurs dans quelque chose qui a rapport avec la culture électronique, plus que la musique électronique. La musique électronique est quand même quelque chose qui, culturellement, a dominé le paysage de la culture électronique. Je pense que des événements comme ça permettent de voir un peu les liens qu'il peut y avoir ou les non-liens, parce que certaines choses peuvent faire de... Certaines pratiques font des choses que d'autres ne peuvent pas faire, et c'est ça qui est important dans des expériences comme ça.
Pour l'Innocent, avec Pierre, on propose notre live audiovisuel qui s'appelle Ersatz.
Ouais, on va jouer Ersatz ce soir à 12h30. Donc c'est un live audiovisuel qui... On est parti d'une technique qui est la photogrammétrie, donc c'est de faire en fait des scans 3D à partir de photographies. La manière un peu classique de faire, c'est de tourner autour d'un objet et de générer une modélisation 3D avec une texture photo qui se calque dessus. Et donc pour l'occasion, on a fait une photogrammétrie du Palais Brongniart qu'on est venu intégrer au live. Donc pendant que les gens regardent le live, ils voient à un moment l'endroit où ils sont et ils le voient se faire déformer, se faire transformer. Donc c'est assez intéressant, ouais, d'amener un peu ce côté contextuel dans chaque endroit où on joue et de pas avoir un live qui est totalement figé, quoi.
Dans le salon d'honneur est installé l'Acousmonium, un dispositif qui agence les enceintes en forme ovale autour de la scène pour immerger l'auditeur dans un son spatialisé. Les spectateurs, invités à déambuler dans la salle, restent cependant assis ou debout à la même place. Bertrand Maire, créateur de l'Innocent, nous parle de ce dispositif et du festival qu'il a imaginé.
Alors, il se trouve que je m'occupe aussi de la communication de l'INA. Et quand je suis arrivé à l'INA, j'ai découvert le GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA. Donc c'est les pères fondateurs de la musique électronique. Moi, étant moi-même fan de musique électro, mais pas que, je me suis toujours dit que ce serait bien de redonner la vérité sur la création de la musique électronique, comme quoi c'est vraiment une fierté française. C'est à l'INA, et qu'à un moment donné, il fallait parler de Pierre Schaeffer qui avait inventé cette musique électronique, mais de faire le lien avec toute la nouvelle scène et finalement montrer toutes les passerelles. L'idée, c'est de traiter tous les savoir-faire de la musique électronique. Donc bien entendu, la création, la programmation, la diffusion, les artistes sur scène sont omniprésents. Il y a trois lieux, il y a du DJing, il y a des lives et il y a de la musique expérimentale dans l'Acousmonium. Mais il y a aussi une place de marché pour les acteurs économiques de la musique électronique, ceux qui créent de la valeur et qui permettent aussi, des gens comme Yamaha, Native Instruments, etc., qui créent, qui innovent. Parce que comme la musique électro est extrêmement liée à l'équipement, c'est aussi important. Il y a tout ce qui concerne l'enfance, qui est rarement et jamais traité finalement dans l'électro, parce qu'il y a toujours un regard un peu schématique sur la musique électro. Et là, moi, ce que j'ai voulu, c'est créer des ateliers pour les enfants, montrer comment, dès la petite enfance, on pouvait acquérir ses expertises, créer des sons ici avec des légumes, toutes sortes de choses. Donc le savoir-faire, la transmission, il y a lien aux arts numériques et à l'image forcément, donc il y a une grosse programmation à base d'archives, des web-séries et puis des docus qui racontent l'histoire électronique. Il y a de l'art numérique avec des gens comme Olivier Ratzi ou Linda Bujoli qui sont des artistes d'art contemporain très influencés par la musique. Il y a des gens comme Mozik avec des créateurs influencés par la musique. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réunir un peu la grande famille. Alors l'Acousmonium, c'est, moi j'appelle ça un jardin d'enceinte. dans lequel tu peux te balader pour avoir véritablement une expérience immersive. Alors, il y a des enceintes de tous les types d'époques qui sont entretenues et tenues par le groupe de recherche musicale. Et en fait, c'est plus pour se poser et puis vraiment écouter de l'expérimentation sur le son ou rentrer vraiment dans l'écoute. C'est un mode d'écoute que finalement tu as moins l'habitude d'avoir, puisqu'aujourd'hui on a tous des casques, des baladeurs, etc. Là, c'est vraiment tu te poses et tu rentres dans l'univers de la musique. C'est vraiment une expérience immersive.
Pendant les 2 jours de l'INA Sound, plusieurs artistes jouent dans l'Acousmonium. Enes Dos, Jonathan Fitoussi, Domotique, Eve Aboulkeir ou encore Molécule. Nous retrouvons ce dernier sur les marches du palais.
C'est un live un peu particulier, orienté vraiment sur l'improvisation, avec un setup particulier, beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de pédales d'effet et une configuration où, un peu par ricochet, où chaque son passe dans une pédale d'effet, puis dans une autre. Et le tout spatialisé par Amélie Nils sur l'Acousmonium du GRM. Donc c'était vraiment une première, c'était déroutant pour le public, pour moi-même, et en même temps un moment singulier et très agréable. J'aime bien me situer un peu au croisement de la technologie et de l'artistique. C'est une manière d'avancer et de se mettre en danger, de se renouveler, de faire des choses à chaque fois un peu différentes. Et ça, c'est vraiment ce qui est moteur dans ma démarche. Bah, l'espace, pour moi, c'est avant tout l'écoute et une manière de se connecter à un environnement. L'écoute, c'est quelque chose de fondamental. J'ai pas une démarche militante au niveau artistique, si ce n'est le fait de mettre l'écoute en premier lieu, l'écoute de l'environnement, l'écoute du son à travers des enregistrements, dans la démarche que j'ai d'aller enregistrer à chaque fois et de créer mes albums dans des environnements bien singuliers où la nature est dominante, pour écouter les éléments, les enregistrer, les mettre en musique. Et chaque contexte à travers l'écoute permet d'avoir un ressenti très particulier. Et c'est quelque chose que j'essaye de mettre en valeur. J'ai beaucoup de projets à venir, notamment une tournée avec Hervé Desjardins, ingénieur du son à Radio France, dans le noir en son spatialisé. C'est un projet qui a un peu la genèse d'une soirée qu'on avait faite au Rex en octobre dernier. Et voilà, on propose des concerts dans le noir. La tournée s'appelle Acousmatique 360. Il y a un son spatialisé sur un système LISA Dell Acoustics. Et voilà, on prend beaucoup de plaisir à faire en live, d'une part, une création et une performance musicale et une spatialisation en direct, ce qui crée plein d'interactions. Je reviens aussi de Nazaré au Portugal dernièrement, où je commence à mettre en place un projet autour de la vague la plus grosse du monde. C'est un peu ma volonté d'être toujours un peu en mouvement, de chercher des projets qui déstabilisent, me mettent dans des situations inconfortables avec des contraintes et qui permettent à la créativité vraiment de s'exprimer au maximum.
Dimanche, la nouvelle génération s'empare de la scène principale. Panteros 666 et Inès Alpha infusent leur techno avec un imaginaire rétro-futuriste inspiré des années 90, alors que Sarah Zinger mêle pop et électro avec un live set hybride.
C'est un peu perturbant parce que mon live est un DJ set à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai mes platines, je mixe comme un DJ, fait un DJ set, sauf qu'en fait sur mon live c'est uniquement mes prods à moi pendant une heure, des morceaux plus club et des morceaux plus radio, plus chantés. Je les mixe comme un vrai DJ. Et au moment de chanter, je sors des platines et je me retrouve devant les platines avec le micro. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à sortir en boîte, j'habitais à Lille à l'époque, et je sortais à la frontière belge dans ces gros clubs house qui fermaient à 7h du matin. Et aujourd'hui, j'ai la tête rasée et j'ai des jolis vêtements, mais à l'époque, c'était absolument pas le cas. Et mes potes étaient très en place à Lille. Et moi, j'étais un peu la petite meuf dont tout le monde se foutait. Et du coup, quand on arrivait en club, tout le monde parlait à mes potes. Et moi, je me retrouvais seule. Je regardais le DJ et je me disais « Waouh, c'est trop fou ce mec qui est tout là-haut. Et peut-être que du coup, si j'étais à sa place, ben, ça m'occuperait. Genre, je saurais quoi faire, je serais en train de chercher le prochain morceau à mettre. Et du coup, je me suis dit, voilà, quitte à être en boîte et pas savoir quoi faire et que personne ne veut me parler, autant être derrière les platines et au moins les gens te regardent et t'es respecté. Et c'est ça qui m'a donné envie. Bah là, du coup, l'EP vient de sortir, il y a 5 morceaux. On a fait un point avec mon manager la semaine dernière et je crois que j'ai 10 morceaux de prêt déjà, qui ne sont pas sortis. Donc je pense que la logique, c'est de continuer ça avec un album en fait derrière, d'ici un an max. Là, le projet, c'est vraiment... Là, il y a pas mal de dates cet été. Donc on va laisser ça se passer. Et voilà, comme je te dis, les morceaux sont prêts. Donc on va essayer de voir si on peut faire... J'aimerais bien avoir un joli clip pour Go Back, qui est le morceau phare de mon EP qui vient de sortir. On n'a pas eu de clip pour l'instant. Mais voilà, mes projets, ça serait de faire un joli clip pour Go Back et de bosser sur la construction de l'album après.
Avec plus de 50 artistes et une douzaine d'espaces, Lina Sound est trop immense pour tout absorber en 2 jours. La surabondance et le luxe du lieu caractérisent le festival et sont en même temps la preuve que les grandes institutions ont pris les musiques électroniques sous leur aile. Considérée il y a 30 ans comme une sous-culture par une grande partie de la population, l'électro est aujourd'hui bel et bien entré en bourse.